Ce que je sais, en revanche, c'est qu'à un moment pendant ces années de lycée, j'ai commencé à me poser certaines questions à propos de l'absence de mon père et des choix de ma mère, à propos des raisons pour lesquelles je vivais dans un endroit où si peu de gens me ressemblaient. Bon nombre de ces interrogations avaient trait à la question raciale. Pourquoi y avait-il tant de noirs dans les équipes de basket professionnelles, mais aucun au poste d'entraîneur? Qu'avait voulu dire cette fille de ma classe en affirmant que, lorsqu'elle pensait à moi, ce n'était pas en tant que noir? Pourquoi est-ce que tous les noirs dans les films d'action étaient des maboules qui dégainaient leur cran d'arrêt à tout bout de champ, à une exception près? Le coéquipier sympa, bien sûr, qui se faisait toujours tuer à la fin. Mais ce n'était pas le seul sujet qui me préoccupait. Il y avait aussi la question de la classe sociale. En Indonésie, pendant mon enfance, j'avais pu constater qu'il existait un fossé béant entre les élites fortunées et les masses défavorisées. J'avais pris conscience des tensions tribales qui agitaient le pays de mon père, la haine qui pouvait exister entre ceux qui semblaient les mêmes en apparence. Jour après jour, je prenais la mesure des conditions de vie étriquées de mes grands-parents, des déceptions dont ils se consolaient en regardant la télé, en buvant, en achetant de temps à autre un nouvel appareil électroménager ou en remplaçant leur voiture. J'avais remarqué que ma mère avait acquis sa liberté intellectuelle au prix de difficultés financières chroniques et d'une situation personnelle parfois chaotique. Et j'ai commencé à comprendre les différences hiérarchiques, pas très subtiles au demeurant, entre mes camarades de classe, qui tenaient pour l'essentiel au niveau de richesse de leurs parents. Et puis j'étais assez troublé de voir que, quoi qu'en dise ma mère, les tyrans, les hypocrites et les prétentieux paraissaient très bien s'en sortir, tandis que tous ceux qu'elle tenait pour des gens aimables et honnêtes semblaient toujours finir par se faire avoir. Bref, j'étais tiraillé. C'était comme si, en raison de la singularité de mon ascendance, des différents univers entre lesquels je naviguais, j'étais de partout et nulle part à la fois. Un assemblage de qualités hétéroclites et mal assorties, comme un ornithorynque ou je ne sais quelle créature imaginaire confinée dans un habitat fragile, incertain de la place que j'occupais dans le monde. Et j'avais l'intuition, sans véritablement comprendre pourquoi ni comment, qu'à moins de donner à mon existence la cohérence dont elle manquait et un cap solide par rapport auquel me situer, je risquais tout simplement de passer le reste de ma vie dans la plus grande solitude. Je ne parlais à personne de ces réflexions, et surtout pas à mes amis ou à ma famille. Je ne voulais pas leur faire de la peine ou paraître plus singulier encore que je ne l'étais déjà. En revanche, je trouvais toujours du réconfort dans les livres. La passion de la lecture, je la dois à ma mère, qui m'en a inoculé le virus dès l'enfance. C'était la parade à laquelle elle recourait chaque fois que je me plaignais de m'ennuyer, à l'époque où elle n'avait pas les moyens de m'envoyer au lycée international en Indonésie, ou quand elle devait m'emmener avec elle au bureau parce qu'elle n'avait pas de babysitter. « Prends un livre, » me disait-elle. « Lis-le et reviens ensuite me raconter ce que tu as appris. » J'ai vécu pendant quelques années avec mes grands-parents à Hawaï, tandis que ma mère restait en Indonésie, travaillait et s'occupait de ma petite sœur, Maya. En son absence, affranchie du feu roulant de ses remarques continuelles, je n'ai plus appris grand-chose, comme l'attestaient clairement mes résultats scolaires. Mais à partir de la seconde, les choses ont soudain changé. Je me revois encore aller avec mes grands-parents à une vente de charité à l'église Central Union, juste en face de chez nous, et m'arrêter devant une caisse remplie de vieux bouquins. Sans trop savoir pourquoi, je me suis mis à en sortir quelques-uns, dont le titre me plaisait ou me disait vaguement quelque chose. Des ouvrages de Ralph Ellison et Langston Hughes, Robert Penn Warren et Dostoïevski, D.H. Lawrence et Ralph Waldo Emerson. Grams, qui lorgnait de son côté sur un set de club de golf, a froncé les sourcils en me voyant rappliquer avec mon carton de livres. « Tu comptes ouvrir une bibliothèque ?» Ma grand-mère lui a fait les gros yeux, enchantée par mon intérêt soudain pour la littérature. Toujours aussi pragmatique, elle m'a néanmoins suggéré de me concentrer d'abord sur mes devoirs, avant de m'attaquer à Crimes et châtiments. J'ai fini par tous les lire, ces livres, parfois tard le soir, en rentrant de l'entraînement de basket et d'un rendez-vous entre copains autour d'un pack de bière. Parfois après une séance de body surf le samedi après-midi, installé dans la vieille Ford Granada déglinguée de Gramps. Seul, une serviette enroulée autour de la taille pour ne pas mouiller les sièges. Quand je suis arrivé au bout du premier carton, je suis reparti écumer les vides-greniers pour en trouver d'autres. Souvent, je ne comprenais que de manière très approximative ce que je lisais, et j'avais pris l'habitude d'entourer les mots dont j'ignorais le sens pour en chercher la définition dans le dictionnaire. Je ne me donnais pas autant de mal, en revanche, pour percer à jour les questions de prononciation. Jusqu'à mes 20 ans et même plus tard, je connaissais la signification de certains mots que je ne savais pas prononcer. J'avançais sans aucune méthode, sans rime ni raison. J'étais comme un jeune apprenti bricoleur qui ramasse tout ce qui lui tombe sous la main dans le garage de ses parents, de vieux tubes cathodiques, un boulon par-ci, un morceau de câble par-là, sans trop savoir ce que j'allais bien pouvoir faire de tout ça, mais convaincu que j'en aurais un jour l'usage, dès que j'aurais découvert ma vocation. Mon goût pour la lecture explique sans doute non seulement que j'ai réussi à survivre au lycée, mais que j'ai pu me prévaloir, quand je suis entré à l'Occidental College de Los Angeles en 1979, de posséder une culture politique correcte, quoique limitée, ainsi que toute une théorie d'opinion plus ou moins bien affirmée que je débitais à la cantonade lors des joutes verbales qui animaient la résidence universitaire jusque tard dans la nuit. Je reconnais aujourd'hui, non sans un certain embarras, que ma curiosité intellectuelle pendant ces 2 premières années de fac était en grande partie influencée par les centres d'intérêt des diverses jeunes filles auxquelles je m'intéressais. Marx et Marcuse, afin de pouvoir entamer la discussion avec la jolie militante de gauche aux jambes interminables qui vivait dans la même résidence que moi, Franz Fanon et la poétesse Gwendolyn Brooks, pour les beaux yeux de l'étudiante en sociologie qui ne daignait jamais m'accorder un regard, Michel Foucault et Virginia Woolf, pour l'évanescente jeune fille bisexuelle toujours habillée en noir. Comme arme de séduction auprès des filles, mon pseudo-intellectualisme se révélait d'une inefficacité à peu près totale. Je n'arrivais à nouer que des amitiés, certes pleines de tendresse, mais d'une chasteté désespérante. Ces efforts acharnés ne furent toutefois pas en pure perte. Une ébauche de vision du monde commença à prendre forme dans mon esprit, que m'aidèrent à développer les rares professeurs qui toléraient mon attitude légèrement désinvolte en classe et mes affectations juvéniles. Quelques-uns de mes condisciples, plus âgés que moi pour la plupart, me furent d'une aide encore plus précieuse. Des Noirs issus des quartiers urbains défavorisés, des Blancs originaires de petites bourgades qui avaient sué sang et eau pour entrer à l'université, des gamins latinos de la première génération, des étudiants étrangers venus du Pakistan, d'Inde ou de pays africains vacillant au bord du chaos. Ces gens-là savaient ce qu'importait à leurs yeux. Quand ils prenaient la parole en classe, les opinions qu'ils exprimaient étaient fondées sur leur connaissance intime de telle ou telle communauté, sur une expérience concrète des difficultés de la vie. Voilà comment se traduisent ces restrictions budgétaires dans mon quartier. Attends, je vais te raconter comment ça se passait dans mon école, et ensuite on en reparle de ce qui te choque dans la discrimination positive. C'est bien beau le premier amendement, mais pourquoi le gouvernement américain ne dit-il rien sur la question des prisonniers politiques dans mon pays? Les 2 années que j'ai passées à Occidental ont marqué les débuts de mon éveil politique. Cela ne voulait pas dire pour autant que je croyais à la politique. À quelques exceptions près, tout ce que j'observais du spectacle offert par les responsables politiques à la télévision me semblait douteux. Les brushings, les sourires carnassiers, les discours convenus et l'autopromo permanente, tandis qu'en coulisses ils se disputaient les faveurs des grandes entreprises et autres groupes d'intérêts financiers. Ce n'était que des pions dans un jeu truqué, décrétais-je, et je n'avais aucune envie de prendre part à ce genre de mascarade. Je commençais cependant à m'intéresser à une autre forme d'action, d'une portée plus large et d'une nature moins conventionnelle. Non pas les campagnes politiques, mais les mouvements sociaux, qui rassemblaient des gens ordinaires ayant en commun la volonté de faire bouger les choses. Je me suis penché sur l'histoire des suffragistes et des premières organisations syndicales, sur Gandhi, Lech Walesa et le Congrès national africain. Les personnages qui m'inspiraient le plus étaient les jeunes figures de proue du mouvement des droits civiques. Pas seulement Martin Luther King, mais aussi John Lewis et Bob Moses, Fannie Lou Hamer et Diane Nash. Leurs actions héroïques, le porte-à-porte pour inscrire les gens sur les listes électorales, les sit-ins au comptoir des restaurants, les marches au rythme des Freedom Songs, me laissaient entrevoir la possibilité de mettre en pratique les valeurs que m'avait transmises ma mère, d'exercer le pouvoir en tirant les gens vers le haut plutôt qu'en les écrasant. Voilà à quoi ressemblait la vraie démocratie à l'œuvre. Non pas la démocratie entendue comme un cadeau tombé du ciel, ni comme un butin à se répartir entre groupes d'intérêt, mais une démocratie du mérite, fruit du travail de chacun. Il en résultait non seulement un changement dans les conditions de vie matérielles, mais aussi un sentiment accru de dignité chez les individus et au sein des communautés, un lien entre des gens qui, hier encore, tout semblait séparé. Voilà, décidai-je, un idéal qui valait la peine d'être poursuivi. Il fallait simplement que je puisse me tenir à cet objectif. À la fin de ma deuxième année, j'ai donc changé d'université pour m'inscrire à Columbia. Une façon pour moi, me disais-je, de prendre un nouveau départ. Pendant les 3 années que j'ai passées à New York, terré dans une série d'appartements décrépits, ayant plus ou moins coupé les ponts avec mes anciennes fréquentations et renoncé à mes mauvaises habitudes, j'ai vécu comme un moine. Je lisais, j'écrivais, je rédigeais fiévreusement mon journal, sans presque jamais aller à des fêtes d'étudiants, ni même manger un repas chaud. Je me perdais dans des réflexions sans fin, préoccupé par des questions qui s'enchaînaient les unes aux autres. Pour quelles raisons certains mouvements réussissaient-ils là où d'autres échouaient? Lorsque la politique conventionnelle reprenait à son compte certaines revendications, était-ce un succès pour ceux qui les avaient défendues, ou cela voulait-il dire que leur cause avait été détournée? Jusqu'où était-il acceptable de faire des compromis? À quel moment était-ce le signe qu'on avait vendu son âme? Et comment faire la différence? Oh, quel jeune homme sérieux je faisais! Quelle ardeur et quel manque d'humour! Quand je relis mon journal de ces années-là, j'éprouve une immense tendresse à l'égard de ce jeune homme qui brûlait de laisser sa marque sur le monde, qui voulait prendre part à quelque chose de grandiose et d'idéaliste, quelque chose qui à l'évidence n'existait pas. C'était l'Amérique du début des années 1980, après tout. Les mouvements sociaux de la décennie précédente avaient perdu leur flamme. Un nouveau conservatisme s'était imposé. Ronald Reagan était président, l'économie en récession, la guerre froide battait son plein. Si je pouvais remonter dans le temps, je conseillerais sans doute à ce jeune homme de laisser ses livres de côté pendant un moment et d'ouvrir les fenêtres pour laisser entrer un peu d'air frais. À cette époque, je fumais encore comme un pompier. Je lui dirais de prendre du recul, de sortir, de voir des gens et de profiter des plaisirs que la vie réserve à la jeunesse. Les quelques amis que j'avais à New York me donnaient des conseils similaires. « Il faut que tu te détendes, Barack. Il faut que tu tires un coup. Tu es tellement idéaliste. C'est génial, mais je ne sais pas si tout ce que tu racontes est réellement possible. » Je résistais à ces voix. Je leur résistais précisément parce que je craignais qu'elles n'aient raison. Quel que soit le grand projet qui bouillonnait en moi pendant ces longues heures de solitude, quel que soit ce monde meilleur dont la vision incubait et s'épanouissait dans la serre de mon esprit juvénile, rien de tout cela ne tenait vraiment la route, et ces belles idées s'effondraient dès qu'elles étaient mises à l'épreuve. Dans la lumière grise de l'hiver new-yorkais et au regard du cynisme triomphant de l'époque, les opinions que je proférais en classe ou au café avec des amis paraissaient saugrenues et alambiquées. Et je le savais très bien. C'est d'ailleurs cela, en grande partie, qui m'a permis de ne pas devenir un parfait hurluberlu avant même d'avoir soufflé mes 22 bougies. Au fond, je comprenais à quel point ma vision du monde était absurde, à quel point mes grandes ambitions étaient déconnectées de mon expérience réelle de la vie. J'étais comme Walter Mitty dans la nouvelle de James Thurber, un doux rêveur, un Don Quichotte qui n'aurait pas eu de Sancho Panza à ses côtés. De tout cela aussi, mon journal a conservé la trace, déroulant une chronique assez fidèle de mes travers. Mon penchant pour le nombrilisme plutôt que l'action, une certaine réserve, voire une franche timidité, imputable à mon éducation hawaïenne et indonésienne peut-être, mais due aussi à une profonde inhibition. La crainte d'être rejeté ou de passer pour un idiot. Peut-être même une nature foncièrement paresseuse. J'ai alors résolu de me débarrasser de ces faiblesses en m'astreignant à un régime disciplinaire que je n'ai jamais complètement cessé d'observer. Michel et les filles me font remarquer aujourd'hui encore que je ne peux pas mettre un orteil dans une piscine ou dans l'océan sans me sentir obligé de faire des longueurs. « Tu ne pourrais pas te contenter de barboter ?» me demande-t-elle d'un ton moqueur. « C'est chouette, tu sais. Viens, on va te montrer comment faire. » Je dressais des listes. J'ai commencé à faire de l'exercice, à courir autour du réservoir de Central Park ou sur les berges de l'East River, et à carburer au thon en conserve et aux œufs durs. Je me suis délesté de tout bagage inutile. Qui a besoin de plus de 5 chemises dans son placard? En vue de quelle grande épreuve m'entraînais-je? Je sais en tout cas que je n'étais pas prêt. Mes doutes, mon incertitude, m'interdisaient de me fier trop hâtivement aux réponses faciles. J'ai pris l'habitude systématique de remettre en question mes propres idées. Et je crois que cela m'a servi en fin de compte. Non seulement parce que cela m'a empêché de devenir insupportable, mais parce que cela m'a vacciné contre les formules révolutionnaires toutes faites que brandissaient beaucoup de gens à gauche à l'aube de l'ère Reagan. C'était incontestablement le cas pour ce qui était des questions raciales. Je n'ai pas été épargné à titre personnel par les attaques racistes et les traces durables de la période de l'esclavage et des lois Jim Crow, régissant la ségrégation raciale, me sautaient aux yeux chaque fois que je marchais dans les rues de Harlem ou de certains quartiers du Bronx. Mais ma propre expérience m'a appris à ne pas me réfugier trop vite derrière le statut revendiqué de victime et à me méfier de l'idée selon laquelle, comme j'entendais beaucoup de Noirs l'affirmer dans mon entourage, les Blancs étaient tous d'un racisme irrémédiable. J'avais la conviction au contraire que le racisme n'était pas quelque chose d'inévitable. Et c'était sans doute aussi l'une des raisons pour lesquelles j'avais tellement à cœur de défendre cette grande idée qu'était l'Amérique, ce qu'était notre pays et ce qu'il pouvait devenir. Ma mère et mes grands-parents n'avaient jamais eu le patriotisme très démonstratif. Réciter le serment d'allégeance à l'école, agiter de petits drapeaux lors de la fête nationale le 4 juillet, ce genre de gestes étaient à leurs yeux de sympathiques rituels, pas des devoirs sacrés. Leur attitude vis-à-vis des fêtes de Pâques et de Noël était d'ailleurs à peu près similaire. Même les faits d'armes de Gramps pendant la Seconde Guerre mondiale étaient plus ou moins passés sous silence. Il m'a plus parlé des rations K qu'on leur donnait à manger, atroces, que du sentiment glorieux qu'il avait pu éprouver à défiler dans les rangs de l'armée de Patton. Et pourtant, la fierté d'être américain, l'idée que l'Amérique était le plus grand pays au monde, n'était jamais remise en cause. Ça allait de soi. Quand j'étais jeune, les ouvrages qui rejetaient la notion d'exceptionnalisme américain m'exaspéraient. Je me lançais dans d'interminables débats avec ceux de mes amis pour qui l'hégémonie américaine était à l'origine du malheur des peuples opprimés du monde entier. J'avais vécu à l'étranger, j'en savais trop. Que l'Amérique échoue constamment à se montrer à la hauteur de ses idéaux, je le concédais volontiers. L'histoire américaine telle qu'on l'enseignait à l'école, dans une version qui n'évoquait qu'en passant l'esclavage et ne disait presque pas un mot du massacre des peuples amérindiens, tout cela, je ne le cautionnais pas. Les errements du pouvoir militaire, la rapacité des multinationales, ça va, c'est bon, j'étais au courant. Mais l'idée de l'Amérique, la promesse de l'Amérique, ça, je m'y accrochais avec une obstination qui me surprenait moi-même. Nous tenons pour évidentes, pour elles-mêmes, les vérités suivantes. Tous les hommes sont créés égaux. Voilà l'Amérique telle que je la concevais. L'Amérique de la Déclaration d'indépendance, de Tocqueville, le pays de Whitman et de Thoreau, où nul ne m'était inférieur ou supérieur. L'Amérique des pionniers qui étaient partis vers l'Ouest en quête d'une vie meilleure, ou des immigrés qui avaient débarqué à Ellis Island, poussés par la soif de la liberté. C'était l'Amérique de Thomas Edison et des frères Wright qui avaient donné des ailes aux rêves des hommes. L'Amérique des exploits de Jackie Robinson sur le marbre des terrains de baseball. C'était Chuck Berry et Bob Dylan, Billie Holiday au Village Vanguard et Johnny Cash à la prison d'État de Folsom. Tous ces marginaux qui s'étaient emparés des rebuts ignorés ou négligés par les autres pour en faire des œuvres d'une beauté inouïe. C'était l'Amérique de Lincoln à Gettysburg, du centre d'œuvre sociale de la militante des droits des femmes Jane Addams à Chicago, des GI épuisés sur les plages de Normandie et de Martin Luther King appelant la nation tout entière, et lui le premier, à s'armer de courage. C'était la Constitution et le Bill of Rights, rédigés par des penseurs brillants, même s'ils n'étaient pas sans défaut, qui avaient su fonder sur la raison un système à la fois solide et souple, ouvert au changement. Une Amérique qui pouvait expliquer l'individu que j'étais.
C'est ça, continue de rêver, Barack.
Voilà comment se terminaient en général mes grandes discussions avec mes camarades, l'un de ces salopards se fendant alors d'un petit sourire satisfait en me mettant sous le nez la une du journal qui annonçait à grand bruit l'invasion de la Grenade par les États-Unis, des coupes dans le budget des cantines scolaires ou toute autre nouvelle décourageante. « Désolé, mais c'est ça, ton Amérique. »